tous les 10 heures de « on va jouer la recette pour arranger les problèmes du monde », d'habitude, on provoquait les pires catastrophes du monde. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas honnêtes dans leur démarche? Ils sont honnêtes. Mais ils n'ont pas la recette, ils n'ont pas compris une chose toute bête. Que la dose de mal qu'il y a chez nous est tellement grande, l'égoïsme, il est tellement fort, la recherche des plaisirs, les pulsions tellement puissantes, la concurrence avec l'autre tellement grande, le désir de pouvoir tellement immense, que c'est pas avec le peu de bonne conscience qu'on a qu'on va arriver à gérer ça, en tout cas pas au niveau d'une société. C'est marqué dans un vote, dans les maximes des pères. Sans la crainte de la rachoute. La rachoute, c'est-à-dire l'establishment, le pouvoir exécutif et législatif, celui qui fait qu'il y a des lois et qu'il y a une police. Ish et Achiv Belao. Les hommes auraient avalé leurs frères. Combien il y aurait eu de meurtres et de vols, c'est pas la police. Pourquoi est-ce qu'il faut une police? Tu comprends avec un minimum de bonne conscience que c'est pas bien de tuer. Tu comprends avec un minimum de conscience que c'est pas bien de voler. Sans police, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas, on... Je sais même pas si on peut appeler le mot gérer, d'accord? On contraint. Tu as de la prison, tu as des moyens, tu as des fois des peines de mort pour contraindre le monde à aller plus ou moins droit. Toi, tu me dis, prenons l'amour, prenons la paix, il y aura la paix. Je dis impossible. Le seul moyen, c'est la réponse, le seul moyen, c'est arriver à créer un flux venant de Dieu, c'est un flux de pureté tellement grand, qui va arriver à dégrossir, affiner mes mauvais traits de caractère. Nous sommes tous potentiellement des parfaits meurtriers, des parfaits débauchés, des parfaits jaloux. C'est très dur de ne pas être jaloux. La Première Guerre mondiale qui a tué un quart de l'humanité, c'était qui? Qui contre qui? Très bien. Caïn a tué Abel à cause de jalousie. Pourquoi lui et pas moi? Et combien de gens qui sont déjà des gens adultes, des fois, souvent, même toujours, des boss de grandes boîtes, ils n'ont pas « pourquoi lui et pas moi ?» Mais deux personnes, deux épiceries, l'un en face de l'autre, dans la même rue. Et s'il y en a un qui va maintenant arriver à ne pas compter le nombre de clients qu'il y a chez lui et faire taire la concurrence, qu'il n'est pas plus que moi. Si l'autre n'est pas en face de toi, et tu aurais eu le même résultat de bénéfice à la fin du mois, peu ou beaucoup, tu aurais été content. Maintenant qu'il y a lui en face, ta vie n'est plus une vie. Bien que nous savons que lui ne fait rien. Dieu a déjà dit d'avance combien t'aurais et combien lui il aurait. Le Razonich dit combien il y a de kedusha qui rentrent dans le monde. Si on a un homme qui a une épicerie, et vient un autre épicier et ouvre l'épicerie en face de lui. Et lui vient lui dire, est-ce que je peux t'aider, te donner des tuyaux pour que ça marche mieux? T'imagines le degré? Ça c'est la paix dont tu parles. Ça c'est le shalom. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'un homme soit à ce point-là puissant dans la partie humaine, à l'image de Dieu, bonne, pour arriver à un homme qui vient avec une chose pareille? Il y a un débat entre lui. Il va me prendre de mon pain. On est concurrents. Et en plus, il vend des choses moins bonnes que moi pour le même prix. Les gens se font avoir et quand c'est que les gens... Vas-y, reviens-toi de parler. T'arrives, c'est très dur. Quelqu'un qui arrive à juguler cela, c'est pas facile du tout. Il y a une guerre terrible. Admettons qu'il y arrive. Qu'est-ce qui a permis d'arriver à avoir une puissance de bien tellement grande de pureté pour retenir les pulsions que nous avons tous? Ça s'appelle Kedusha, sainteté. Présence de Dieu parmi nous. La Kedusha. Ceux qui sont très souvent vides de Kedusha, mais ont quand même une partie qui est divine en eux, arriver à la Kedusha, vraiment, ils n'arrivent pas. Alors ils ont trouvé un truc. Il y a une partie divine qui dit, « Eh oh, mon vieux, t'es pas un animal !» Oui, je suis pour la paix dans le monde. Je suis pour l'unité. C'est vrai, nous voulons, c'est un message qui est vrai. Mais lui n'a pas compris le truc. Le truc pour arriver au shalom, le seul truc qui peut arriver à l'unité, le shalom, c'est la Kedusha. Me brancher avec Dieu. Quand je me branche avec Dieu, ça veut dire, pour un juif, je mange kasher. Quand je ne mange pas kasher, j'ingurgite des parties spirituelles animales qui vont renforcer mes parties animales et éloigner ma perception consciente, vivante, présente de Dieu. Quand je ne fais pas Shabbat, quand je ne respecte pas les lois sexuelles, toute la Torah, c'est ça. Tzitzit, tfilin, shofar, lulav, matzah, toute la Torah, c'est un seul truc. Comment attirer la Kedusha sur moi, sur l'humanité. Quand la Kedusha viendra sur l'humanité, là, alors c'est marqué, le loup paissera près de l'agneau. Vas-y, maintenant, mets les deux ensemble aujourd'hui. Alors, à quoi ça veut dire? Tu me dis, maintenant, je mets un agneau et un loup, je dis, soyez en paix, mes enfants. Alors, ou tu mets des flics, et ils sont en paix, mais du moment que tu enlèves les flics, ils se bouffent. Le message, il est bien beau. On est tous d'accord, tout le monde a toujours dit ce message. Mais comment on y arrive? Le monde religieux orthodoxe met l'accent beaucoup sur la Kedusha. Les grands de la Torah mettront aussi beaucoup l'accent sur la relation avec l'autre. Mais c'est vrai qu'au niveau du peuple, et là je suis d'accord, il y a un problème, que très souvent, il est beaucoup plus facile pour moi de mettre l'accent dans le chauffage branché mais éteint à Yom Tov, parce que je n'ai pas de relation au niveau de mes pulsions caractérielles de jalousie, de domination, d'envie. J'ai jamais eu envie d'un lampadaire, ni de dominer sur lui, ni je suis jaloux. Donc c'est relativement simple à gérer. Quand il s'agit de l'autre, c'est très dur. Donc, de façon naturelle, on sera plus porté à, soi-disant, être un bon juif avec des choses techniques. Les gens de l'extérieur diront, alors arrête de mettre l'accent sur le technique, mais sur la paix, mais sur l'amour. Non. On ne pourra jamais arriver à l'amour sans le technique. Jamais. Tous ceux qui ont fait les pires catastrophes du monde. Tous ceux qui ont tenté de faire ça. Le seul moyen d'arriver à l'amour, c'est d'abord par le technique. Mais après, quand la technique t'a permis d'avoir déjà une relation, oui, force avec Dieu, alors il faut travailler aussi sur l'amour. Et là, il y a un travail énorme à faire. Et c'est vrai que s'il y a ça et pas ça, ça manque. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de dire, ok, alors faisons ça et pas ça. Il faut les deux. Il faut les deux. Je vais donner juste un exemple remarquable que le rabbin Sion Abachou écrit dans son livre. Il dit, un maraîcher, quelqu'un qui a des vaches. Un maraîcher, un métayer, hein? Personne ne sait. Bon, alors, plus personne ne sait, ça va. Bon. Un éleveur de bétail. Il a des vaches pour consommation. Il les mène ici à Jérusalem pour les faire égorger. On les égorge. Mais ça vaut une vache, au moins 5000 dollars. Désolé, mon vieux, il y a un gros trou dans le poumon. Taref. Perte sèche, 5000 dollars. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, un bon juif. Un bon juif, je parle d'un bon juif, qui a la crainte de Dieu. Dommage, triste, bon, tout ce que... Ça vient de Dieu, j'accepte. J'accepte la sentence avec abnégation. Autre cas de figure. Autre cas de figure. Il y a un tuyau entre deux appartements qui a éclaté et ça fait une inondation et il y a des dégâts pour 5 000 dollars. Maintenant, c'est pas clair à qui est le tuyau et qui est responsable, le voisin X ou le voisin Y. Ils vont ce qu'on appelle un din Torah, tribunal. Et chacun va donner son argumentation. Évidemment, il est très dur de donner une argumentation pour l'autre. Je prends l'agression en ma faveur. Et dans la relation avec l'autre, c'est toujours comme ça. Adam, Karov et Salson, l'homme, il est proche de lui. C'est-à-dire il n'arrive pas à voir que lui est peut-être fautif et l'autre a raison. Et quand il entend l'autre qui donne des arguments, il trouve faux. Il se met en colère, comment il ose dire une chose pareille? Il voit que le juge l'écoute. Alors qu'il se met à crier. Et tu as deux personnes, et là c'est un spectacle qui est presque quotidien, avec des grandes barbes religieuses, qui hurlent chacun que l'autre est un voleur, un tordu, un machin, et t'as le juge en face qui regarde comme ça. Ça arrive. T'as des gens aussi qui le font très bien aussi, avec honneur, mais toi aussi. Pourquoi? Et pour finir, le juge va dire, toi t'es fautif, lui il a raison. Le fautif dit, il sort. C'est-à-dire, le juge a bien jugé, il n'a rien compris. Le juge, c'est un débutant, on m'avait bien dit que ce tribunal n'est pas très bon, il fallait prendre un autre. Et puis, l'autre, il leur racontait des histoires, et il a cru, c'est un menteur. Ça le bouffe intérieurement. Qui va accepter? Il va dire, sa sentence de Dieu, j'accepte, je sais que tout est fait comme il le faut. Impossible, pas impossible, très dur. Qu'est-ce qui a changé? Ici, tu as perdu 5 000 dollars, là, tu as perdu 5 000 dollars. Le 5 000 dollars de l'animal, tu n'étais pas en relation avec un autre. Avec Dieu, Dieu, ça va, j'accepte. C'est technique, pas de problème. Quand il y a l'autre en face, insupportable. Tu n'arrives pas à comprendre que ça vient de Dieu, c'est en face. Nous avons, même pour quelqu'un qui est un bon juif religieux, bon entre guillemets, c'est très dur à gérer, à juguler nos pulsions au niveau des relations avec l'autre. C'est pour ça que Bilal Nadar, la prochaine fois, on va faire un peu des cours sur entre relations dans la Torah, à quel point la Torah met l'accent sur l'importance est très très précise dans les relations avec l'autre. Tu verras que la barre, elle est très très haute. Moi, je lis, j'étais en train d'étudier ici à la Khotla, ça me fait mal au cœur. La barre, elle est très haute. C'est très dur. Et l'exigence, elle est très très grande. Je t'écoute.
Mais si on peut, en gros, c'est mission impossible, c'est un peu pieux de vouloir faire l'unité du peuple avant qu'il y ait la Kedusha. Qu'est-ce qui protège aujourd'hui alors plus les religieux aujourd'hui que pendant la guerre? Parce que peut-être qu'à l'époque aussi, ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait pour essayer de faire que le peuple il reste religieux, qui revienne vers la religion. Qu'est-ce qui protège aujourd'hui plus d'être religieux qu'avant? On est dans la même situation en fait.
Non. Aujourd'hui, il y a entre 70 et 80% d'assimilation dans le monde. Avant la guerre, il y avait entre 70 et 80% d'assimilation aussi. La petite nuance qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de retour. Alors qu'avant la guerre, il n'y avait aucun mouvement de retour. On ne connaît pas de cas. On ne connaît pas de cas de gens qui ont fait tchouva avant la guerre. Zéro. Peut-être qu'il y en a eu, on ne les connaît pas. Il y a un sondage ici en Israël dernièrement. Ils estiment à 500 000 personnes, pas ceux qui ont fait tchouva, ceux qui sont en processus plus ou moins rapide ou lent de retour à la religion. Un, ça va être qu'il fait kippour, pas plus, il ne faisait pas avant. Un, ça, il met la barbe, le chapeau, le titi, il vient à l'échiva. Donc, il y a environ 500 000. Et c'est universel. Ça veut dire que tu peux dire à Dieu, regarde, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui partent, mais il y a beaucoup qui reviennent aussi. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Mais voilà pourquoi est-ce qu'on en parlait maintenant du shalom. J'ai pas très bien compris. Tu as dit, ah, vu qu'il n'y a, a pas le shalom. Alors, le shalom total, il peut venir que par cela. Lorsque beaucoup de juifs ensemble vont faire Shuvah, ça va amener tellement de sainteté dans le monde qu'on fera la paix entre nous, Beurtachem.